Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Dans nos lectures en liberté et au cours de cette semaine particulière du 18 juin, je vous propose, pour terminer la semaine, quelques extraits d'une œuvre de Georges Semprin, L'écriture ou la vie. Donc Georges Semprin, déporté à Buchenwald, membre d'un des réseaux anglais de résistance Bookmaster, devenu l'un des dirigeants des communistes espagnols du camp. Il est libéré par la troupe de Patton le 11 avril 1945. Et ce récit fait d'obsessions qui reviennent comme les thèmes d'une rhapsodie de cauchemar, montre comment il lui a fallu 15 ans pour accepter la vie. Donc voici des extraits de l'œuvre de Georges Semprin, L'écriture ou la vie. Le regard. Ils sont en face de moi, l'œil rond, et je me vois soudain dans ce regard d'effroi, leur épouvante. Depuis 2 ans, je vivais sans visage, nul miroir à Buchenwald. Je voyais mon corps, sa maigreur croissante, une fois par semaine aux douches. Pas de visage sur ce corps dérisoire. De la main, parfois, je frôlais une arcade sourcilière, des pommettes saillantes, le creux d'une joue. J'aurais pu me procurer un miroir, sans doute. On trouvait n'importe quoi au marché noir du camp, en échange de pain, de tabac, de margarine, même de la tendresse à l'occasion. Mais je ne m'intéressais pas à ces détails. Je voyais mon corps de plus en plus flou sous la douche hebdomadaire. Amaigri, mais vivant. Le sang circulait encore, rien à craindre. Ça suffirait, ce corps amenuisé mais disponible, apte à une survie rêvée, bien que peu probable. La preuve d'ailleurs, je suis là. Il me regarde. L'œil affolé, rempli d'horreur. Mes cheveux ras ne peuvent pas être en cause, en être la cause. Jeune recrue, petit paysan, d'autres encore, portent innocemment le cheveu ras. Banal, ce genre. Ça ne trouble personne, une coupe à zéro. Ça n'a rien d'effrayant. Ma tenue, alors? Sans doute a-t-elle de quoi intriguer une défroque disparate. Mais je chausse des bottes russes en cuir souple. J'ai une mitraillette allemande en travers de la poitrine, signe évident d'autorité par les temps qui courent. Ça n'effraie pas l'autorité, ça rassure plutôt. Ma maigreur? Ils ont dû voir pire déjà. S'ils suivent les armées alliées qui s'enfoncent en Allemagne ce printemps, ils ont déjà vu pire. D'autres camps, des cadavres vivants. Ça peut surprendre, intriguer ces détails. Mes cheveux ras, mes hardes disparates. Mais ils ne sont pas surpris ni intrigués. C'est l'épouvante que je lis dans leurs yeux. Il ne reste que mon regard, j'en conclus, qui puisse autant les intriguer. C'est l'horreur de mon regard que révèle le leur horrifié. Si leurs yeux sont un miroir, enfin, je dois avoir un regard fou, dévasté. Ils sont sortis de la voiture à l'instant, il y a un instant. On fait quelques pas au soleil, dégourdissant les jambes. M'ont aperçu alors, se sont avancés. Trois officiers en uniforme britannique. Un quatrième militaire, le chauffeur, est resté près de l'automobile, une grosse Mercedes grise qui porte encore des plaques d'immatriculation allemande. Ils se sont avancés vers moi. Deux d'une trentaine d'années, blonds, plutôt roses. Le troisième, plus jeune, brun, arbore un écusson à croix de Lorraine où est inscrit le mot « France ». Je me souviens des derniers soldats français que j'ai vus en juin 1940, de l'armée régulière, s'entend. Car des irréguliers, des francs-tireurs, j'en avais vu depuis, de nombreux. Enfin, relativement nombreux. Assez pour en garder quelques souvenirs. Au Tabou, par exemple, dans le maquis bourguignon, entre l'Aigne et l'Arrêt. Mais les derniers soldats réguliers de l'armée française, ce fut en juin 40, dans les rues de Redon. Ils étaient misérables, se repliant en désordre, dans le malheur, la honte, gris de poussière et de défaite, défait. Celui-ci, 5 ans après, sous un soleil d'avril, n'a pas la mine défaite. Il arbore une France sur son cœur, sur la poche gauche de son blouson militaire, triomphalement, joyeusement. Du moins. Il doit avoir mon âge, quelques années de plus. Je pourrais sympathiser. Il me regarde, effaré d'effroi. Qu'y a-t-il, dis-je, irrité sans doute, cassant. Le silence de la forêt qui vous étonne autant? Il tourne la tête vers les arbres alentour. Les autres aussi. Dresse l'oreille. Non, ce n'est pas le silence. Il n'avait rien remarqué, pas entendu le silence. C'est moi qui les épouvante. Rien d'autre, visiblement. Plus d'oiseaux, dis-je, poursuivant mon idée. La fumée du crématoire les a chassés, dit-on. Jamais d'oiseaux dans cette forêt. Ils écoutent, appliqués, essayant de comprendre. L'odeur de chair brûlée, c'est ça. Ils sursautent, se regardent entre eux, dans un malaise quasiment palpable, une sorte de hoquet, de haut le cœur. Étrange odeur, a écrit Léon Blum. Déporté en avril 1943 avec Georges Mandel, Blum a vécu 2 ans à Buchenwald. Mais il était enfermé en dehors de l'enceinte proprement dite du camp, au-delà de la barrière de barbelés électrifiés, dans une villa du quartier des officiers SS. Il n'en sortait jamais. Personne n'y pénétrait que les soldats de garde. 2 ou 3 fois, il avait été conduit chez le dentiste. Mais c'était en voiture, la nuit, sur des routes désertes dans la forêt de Hêtre. Les SS, a-t-il consigné dans ses souvenirs, circulaient sans cesse mitraillettes en bandoulière et chiens en laisse dans l'étroit chemin de ronde ménagé entre la palissade barbelée et la maison. Comme des ombres impassibles et muettes, a écrit Léon Blum. C'est la rigueur de cette clôture qui explique son ignorance. Léon Blum ne savait même pas où il se trouvait, dans quelle région d'Allemagne il avait été déporté. Il a vécu 2 ans dans une villa du quartier des casernes SS de Buchenwald en ignorant tout de l'existence du camp de concentration si proche, pourtant. Le premier indice que nous en avons surpris, a-t-il écrit au retour, est l'étrange odeur qui nous parvenait souvent le soir par les fenêtres ouvertes et qui nous obsédait la nuit tout entière quand le vent continuait à souffler dans la même direction. C'était l'odeur des fours crématoires. On peut imaginer Léon Blum ces soirs-là. De printemps, probablement, fenêtres ouvertes sur la douceur du printemps revenu, les effluves de la nature. Moment de nostalgie, de vague à l'âme dans la déchirante incertitude du renouveau et soudain porté par le vent, l'étrange odeur, douceâtre, insinuante, avec des relents âcres proprement écœurants, l'odeur insolite qui s'affairerait être celle du four crématoire. Étrange odeur, en vérité, obsédante. Il suffirait de fermer les yeux encore aujourd'hui, il suffirait, non pas d'un effort, bien au contraire, d'une distraction de la mémoire remplie à ras-bord de balivernes de bonheur insignifiant pour qu'elle réapparaisse. Il suffirait de se distraire de l'opacité chatoyante des choses de la vie. Un bref instant suffirait, à tout instant, se distraire de soi-même, de l'existence qui vous habite, vous investit obstinément, obtusement aussi, obscur désir de continuer à exister, de persévérer dans cette obstination, quelle qu'en soit la raison, la déraison. Il suffirait d'un instant de vraie distraction de soi, d'autrui, du monde. Instant de non-désir, de quiétude d'en deçà de la vie où pourrait affleurer la vérité de cet événement ancien originaire, où flotterait l'odeur étrange sur la colline, patrie étrangère, où je reviens toujours. Il suffirait d'un instant, n'importe lequel, au hasard, au dépourvu, par surprise, à brûle-pourpoint, ou bien d'une décision mûrement réfléchie, tout au contraire. L'étrange odeur surgirait aussitôt dans la réalité de la mémoire. J'y renaîtrais. Je mourrais d'y revivre. Je m'ouvrirais, perméable, à l'odeur de vase de cet estuaire de mort entêtante. J'avais plutôt envie de rire pourtant avant l'apparition de ces trois officiers, de gambader au soleil, poussant des cris d'animal. Orfraie ? C'est comment l'orfraie ? Courant d'un arbre à l'autre dans la forêt de hêtres. Ça me faisait plutôt du bien, en somme, d'être vivant. La veille, vers midi, une sirène d'alerte avait retenti. « Alarme ! Alarme ! » criait une voix rauque, pleine de panique dans le circuit des haut-parleurs. On attendait ce signal depuis quelques jours, depuis que la vie du camp s'était paralysée à l'approche des avant-gardes blindées du général Patton. Plus de départ à l'aube, vers les commandos extérieurs. Dernier appel général des déportés le 3 avril. Plus de travail, sauf dans les services intérieurs de maintenance. Une attente sourde régnait à Buchenwald. Le commandement SS avait renforcé la surveillance, doublé les gardes des miradors. Les patrouilles étaient de plus en plus fréquentes sur le chemin de ronde au-dessus de l'enceinte de barbelés électrifiés. Une semaine ainsi, dans l'attente. Le bruit de la bataille se rapprochait.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez vingt et cent, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez vingt et cent.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Nous continuons. Le texte de Georges Semprin, L'écriture ou la vie, après cette petite pause. À Berlin, la décision fut prise d'évacuer le camp. Mais l'ordre ne fut exécuté qu'en partie. Le comité international clandestin organisa aussitôt une résistance passive. Les déportés ne se présentèrent pas aux appels destinés à les regrouper pour le départ. Des détachements de SS furent alors lâchés dans les profondeurs du camp, armés jusqu'aux dents, mais apeurés par l'immensité de Buchenwald, par la masse décidée et insaisissable de dizaines de milliers d'hommes encore valides. Les SS tiraient parfois en rafale aveugle, essayant de contraindre les déportés à se rassembler sur la place d'appel. Mais comment terroriser une foule déterminée par le désespoir, se trouvant au-delà du seuil de la mort? Sur les 50 000 détenus de Buchenwald, les SS ne parvinrent à évacuer qu'à peine la moitié. Les plus faibles, les plus âgés, les moins organisés. Ou alors ceux qui, comme les Polonais, avaient collectivement préféré l'aventure sur les routes de l'évacuation à l'attente d'une bataille indécise, d'un massacre probable de dernière heure. On savait que des équipes SS armées de lance-flammes étaient arrivées à Buchenwald. Je ne vais pas raconter nos vies, je n'en ai pas le temps. Pas celui du moins d'entrer dans les détails qui est le sel du récit. Car les trois officiers en uniforme britannique sont là, plantés devant moi, l'œil exorbité. Ils attendent je ne sais quoi, mais le font de pied ferme. Le 11 avril, la veille donc, pour en finir en deux mots, peu avant midi, la sirène d'alerte avait retenti, mugissant par coups brefs, répétés de façon lancinante « Alarme ! Alarme !» L'ennemi était aux portes. La liberté. Les groupes de combat se sont alors rassemblés au point fixé d'avance. À 15 heures, le comité militaire clandestin a donné l'ordre de passer à l'action. Des copains ont surgi soudain, les bras chargés d'armes. Des fusils automatiques, des mitraillettes, quelques grenades à manches, des parabellums, des bazookas, puisqu'il n'y a pas de mot français pour cette arme anti-char. Des armes volées dans les casernes SS. Lors du désordre provoqué par le bombardement aérien d'août 1944 en particulier, ou abandonné par des sentinelles dans les trains qui ramènent les survivants juifs d'Auschwitz en plein hiver, ou bien sortis en pièces détachées des usines montées ensuite dans des ateliers clandestins du camp. Des armes patiemment réunies au long des longues années pour ce jour improbable, aujourd'hui. Le groupe de choc des Espagnols était massé dans une aile du rez-de-chaussée du bloc 40, le mien. Dans l'allée, entre ce bloc et le 34 des Français, Palasson est apparu, suivi par ceux qui portaient les armes au pas de course. « Vite !» hurlait Palasson, le responsable militaire des Espagnols. Nous avions sauté par les fenêtres ouvertes en hurlant aussi. Chacun savait quelle arme lui était destinée, quel chemin prendre, quel objectif atteindre. Désarmés, mêlés à la foule hagarde, affamés, désorientés des dimanches après-midi, nous avions déjà répété ces gestes, parcouru cet itinéraire. L'élan était devenu réflexe. À 15h30, la tour de contrôle et les miradors avaient été occupés. Le communiste allemand, Hans Heiden, l'un des doyens de Buchenwald, pouvait s'adresser aux détenus à travers les haut-parleurs du camp. Plus tard, nous marchions sur Weimar en armes. Nuit tombée, les blindés de Patton nous rattrapaient sur la route. Leurs équipages découvraient, ébahis tout d'abord, exultant après nos explications, ces bandes armées, ces étranges soldats en haillons. On échangeait des mots de reconnaissance dans toutes les langues de la vieille Europe sur la colline de l'Ettersberg. Aucun d'entre nous jamais n'aurait osé faire ce rêve. Aucun d'assez vivant encore pour rêver, pour se hasarder à imaginer un avenir. Sous la neige des appels alignés au cordeau par milliers pour assister à la pendaison d'un camarade, nul d'entre nous n'aurait osé faire ce rêve jusqu'au bout, une nuit en armes, marchant sur Weimar. Survivre, simplement, même démuni, diminué, défait, aurait déjà été un rêve un peu fou. Nul n'aurait osé faire ce rêve, c'est vrai. Pourtant, c'était comme un rêve soudain, c'était vrai. Je riais, ça me faisait rire d'être vivant. Le printemps, le soleil, les copains, le paquet de camels que m'avait donné cette nuit un jeune soldat américain du Nouveau-Mexique, au castillan chantonnant, ça me faisait plutôt rire. Peut-être n'aurais-je pas dû. Peut-être est-ce indécent de rire, avec la tête que je semble avoir. À observer le regard des officiers en uniforme britannique, je dois avoir une tête à ne pas rire. À ne pas faire rire non plus, apparemment. Ils sont à quelques pas de moi, silencieux. Ils évitent de me regarder. Il y en a un qui a la bouche sèche, ça se voit. Le deuxième a un tic de la paupière, nerveux. Quant au Français, il cherche quelque chose dans une poche de son blouson militaire, ça lui permet de détourner la tête. Je ris encore, tant pis si c'est déplacé. Le crématoire s'est arrêté hier, leur dis-je. Plus jamais de fumée sur le paysage. Les oiseaux vont peut-être revenir. Ils font la grimace, vaguement écœurés. Mais ils ne peuvent vraiment comprendre. Ils ont saisi le sens des mots, probablement, fumé. On sait ce que c'est, on croit savoir. Dans toutes les mémoires d'hommes, il y a des cheminées qui fument. Rurales à l'occasion, domestiques, fumées des lieux lares. Cette fumée, pourtant, ils ne savent pas. Et ils ne sauront vraiment jamais. Ni ceci, ce jour-là. Ni tous les autres, depuis. Ils ne sauront jamais. Ils ne peuvent pas imaginer, quelles que soient leurs bonnes intentions. Fumée toujours présente en panache ou volute sur la cheminée trapue du crématoire de Buchenwald, aux abords de la baraque administrative du service du travail où j'avais travaillé cette dernière année. Il me suffisait d'un peu pencher la tête sans quitter mon poste de travail au fichier central, de regarder par l'une des fenêtres donnant sur la forêt. Le crématoire était là, massif, entouré d'une haute palissade couronnée de fumée ou bien de flammes la nuit. Lorsque les escadrilles alliées s'avançaient vers le cœur d'Allemagne pour des bombardements nocturnes, le commandant SS demandait qu'on éteignît le four crématoire. Les flammes, en effet, dépassant de la cheminée, étaient un point de repère idéal pour les pilotes anglo-américains. Crématoire, éteignez ! Criait alors une voix brève, impatientée, dans le circuit des haut-parleurs. Nous dormions. La voix sourde de l'officier SS de service à la tour de contrôle nous réveillait, ou plutôt, elle faisait d'abord partie de notre sommeil, elle résonnait dans nos rêves avant de nous réveiller. À Buchenwald, lors des courtes nuits où nos corps et nos âmes s'acharnaient à reprendre vie, obscurément avec une espérance tenaille et charnelle que démontait la raison sitôt le jour revenu. Ces deux mots, crématoire, éteignez, qui éclataient longuement dans nos rêves, les remplissant d'écho, nous ramenaient aussitôt à la réalité de la mort. Nous arrachaient aux rêves de la vie. Plus tard, quand nous sommes revenus de cette absence, lorsqu'il se faisait entendre par forcément dans un rêve nocturne, une rêverie en plein jour, un moment de désarroi, même au milieu d'une conversation aimable, ferait tout aussi bien l'affaire plus tard. Ces deux mots, allemands, ce sont toujours ces deux mots qui se sont fait entendre plus tard. Ils nous renverraient également à la réalité. Ainsi, dans le sursaut du réveil ou du retour à soi, il nous arrivait de soupçonner que la vie n'avait été qu'un rêve, parfois plaisant, depuis le retour de Buchenwald. Un rêve dont ces deux mots nous réveillaient soudain, nous plongeant dans une angoisse étrange par sa sérénité. Car ce n'était pas la réalité de la mort, soudain rappelée, qui était angoissante. C'était le rêve de la vie. Même paisible, même rempli de petits bonheurs, c'était le fait d'être vivant, même en rêve, qui était angoissant. S'en aller par la cheminée, partir en fumée, étaient des locutions habituelles dans le sabir de Buchenwald. Dans le sabir de tous les camps, les témoignages n'en manquent pas. On les employait sur tous les modes, tous les tons, y compris celui du sarcasme, surtout même entre nous, du moins. Les SS et les contremaîtres civils les employaient toujours sur le ton de la menace ou de la prédiction funeste. Ils ne peuvent pas comprendre, pas vraiment, ces trois officiers. Il faudrait leur raconter la fumée, dense parfois d'un noir de suie dans le ciel variable, ou bien légère et grise, presque vaporeuse, voguant au gré des vents sur les vivants rassemblés comme un présage, un au revoir. Fumée pour un linceul aussi vaste que le ciel, dernière trace du passage, corps et âme, des copains. Il faudrait des heures, des saisons entières, l'éternité du récit, pour à peu près en rendre compte. Il y aura des survivants, certes, moi, par exemple. Me voici survivant de service, opportunément apparu devant ces trois officiers d'une mission alliée pour leur raconter la fumée du crématoire, l'odeur de chair brûlée sur l'Ettersberg, les appels sous la neige, les corvées meurtrières, l'épuisement de la vie, l'espoir inépuisable, la sauvagerie de l'animal humain, la grandeur de l'homme, la nudité fraternelle et dévastée du regard des copains. Mais peut-on raconter ? Le pourra-t-on ? Le doute me vient dès ce premier instant. Voilà, nous avons terminé pour ce soir. Cet extrait donc de L'écriture ou la vie de Georges Semprin que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.